aujourd'hui, on continue justement la série sur l'évangile de Jean. Mais on arrive à Jean chapitre 10. C'est un message que j'ai prêché à Sherbrooke puis à Magog les deux dernières semaines. Donc, il y a deux semaines à Sherbrooke, après ça, la semaine passée à Magog. Puis aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait un bon message à lancer aussi. Puis en même temps, c'est un message qui est un petit peu différent de la majorité des messages que je prêche. C'est un sujet qui est quand même rare qu'on a abordé nous autres à Sherbrooke et Magog. Donc, pour vous, je sais pas. Mais je pense que ça va être quand même intéressant puis challengeant en même temps pour nos vies. Donc, on se lance tout de suite dans le passage de Jean, chapitre 10. Ça nous dit, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, « Je suis la porte des brebis. » Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh, juste, j'avais pas terminé avec cela, puis on va arrêter après elle. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, petite question pour vous ce matin, en entrée de jeu. Est-ce que ce matin, dans votre vie, est-ce que vous vous sentez volé, égorgé, détruit? Ou est-ce que vous sentez que vous vivez la vie en abondance? C'est un peu la question pour se lancer. Parce que ça se peut en réalité, en tant qu'être humain, il y a des temps où on sent qu'on est en train de vivre la vie en abondance. Puis il y a d'autres temps où on a l'impression qu'on vit du temps de découragement, où on se sent vidé, on se sent épuisé, on se sent volé, égorgé, détruit. Mais répondez juste en vous-même comment que vous vous sentez ce matin. Puis si vous vous sentez égorgé, détruit, etc., en réalité, faites-en pas trop parce que vous êtes en très bonne compagnie. En fait, dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit la chose suivante. Il dit « 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-Juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. » Donc, est-ce que ça sonne la vie en abondance? Souffrance en abondance, peut-être bien, oui. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Parce que ça me fait penser à un autre passage dans Matthieu 11 qui nous dit la chose suivante, et c'est Jésus qui parle, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Puis la réalité, c'est qu'il y a certains chrétiens qui prennent ces passages-là sur la vie en abondance, le passage sur que le fardeau de Jésus est léger, etc. Puis ces chrétiens-là disent que les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui suivent Jésus-Christ, ils disent que notre vie devrait toujours être une vie d'abondance, toujours être dans l'abondance au niveau de la financier, au niveau de la richesse, au niveau de la santé, etc. Donc la question, c'est est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? À moitié? Bonne question. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que les chrétiens devraient toujours être riches dans l'abondance, etc.? En fait, toujours, peut-être pas, mais ils n'ont pas tort non plus. En fait, je dirais que vous aviez raison. La réponse était oui et non. Ils ont raison et d'une certaine façon, quand on lit la Bible, on se rend compte, ouais, mais ils ont aussi tort d'une certaine façon. Donc oui, ils ont raison que Jésus, c'est certain que quand il est venu sur terre, qu'il est venu donner sa vie pour nous, c'était pas dans le but de nous rendre pauvres. C'est pas pour dire comme, OK, je vais leur rendre la vie dure, je vais leur rendre la vie pénible, puis c'est pour ça que je vais mourir sur la croix pour eux. Il est réellement venu pour nous donner la vie en abondance. Il est vraiment venu pour nous donner l'amour, la paix, la joie, puis oui, même la santé, puis la richesse en abondance. Dans 2 Corinthiens 8, ça nous dit la chose suivante. Ça dit, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Donc, Jésus était au ciel avec Dieu le Père. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus, Dieu le Fils, il était dans la richesse, dans l'abondance du ciel. Puis, il s'est fait homme, il s'est rendu pauvre. Il n'y avait pas de place où poser la tête. Donc, il s'est rendu pauvre. Mais pour quelle raison? Alors qu'il est riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, Jésus, il s'est fait pauvre pour que nous, on puisse être enrichis. Donc, Jésus veut, en réalité, nous rendre riches. Il veut nous rendre riches. Il veut nous rendre en santé aussi. Puis si vous ne me croyez pas, faites juste regarder à la fin de l'histoire de la Bible. Donc, la Bible, c'est 66 livres qui, à la fin de ces livres-là, c'est l'Apocalypse, puis c'est la fin des temps, etc. Et puis, la fin de l'histoire, la conclusion de l'histoire, c'est que le peuple de Dieu, ceux qui croient en Jésus, sont avec Jésus, réunis à lui pour toujours. Il n'y a plus de souffrance. Ils sont dans un endroit magnifique qui a été préparé pour eux. Les rues sont pavées en or. Okay? Fait qu'à quelque part, Jésus veut nous rendre riches. Il veut, son plan, quand il est mort sur la croix, c'était pas pour qu'on aille une vie pauvre puis médiocre et tout, c'était vraiment pour nous rendre riches. La fin de l'histoire, c'est la richesse, c'est la santé, c'est la joie d'être avec lui, c'est que Jésus soit notre trésor ultime. Mais là où je crois qu'on peut, je le dis humblement, je ne prétends pas être celui qui détient la vérité ou l'équilibre absolu dans tout ça. Par contre, là où ce que je crois qu'on peut faire erreur, quand on dit que les chrétiens devraient toujours, toujours être riches, toujours, toujours être en santé, c'est qu'on néglige certains autres passages des Écritures. Parce que malgré que la Bible dit qu'on est héritier des promesses de Dieu, qu'on est co-héritier des promesses de Christ, de l'héritage de Christ. La Bible nous dit aussi qu'on aspire et qu'on attend encore après quelque chose de meilleur. Ça nous dit qu'on est encore en train de soupirer puis d'attendre à une libération complète, une libération totale de notre corps. Dans Romains 8, ça nous dit, or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. En fait, même la création, même les arbres dehors, même toute la création, le fait que l'être humain il a décidé de faire à sa tête puis de vivre à sa manière au lieu de vivre selon l'ordre prévu de Dieu, ça fait en sorte que toute la création est ternie puis est endommagée par le fait que l'être humain vit à sa manière puis on le voit par la pollution, par la manière qu'on exploite la planète, etc. Donc, ça dit même la création, elle souffre du péché dans le monde. Et ça nous dit, et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Donc, en disant ici qu'on a un avant-goût par l'esprit, il est vraiment en train de parler aux chrétiens, aux croyants, parce que la Bible nous dit que quand on croit en Jésus-Christ, que Dieu nous donne son esprit pour vivre en nous, puis il dit, quand tu deviens chrétien, oui, tu as l'esprit qui te donne des avant-goûts de cette libération-là complète du plan de Dieu pour nous ultimement, mais il dit, malgré ça, nous-mêmes, on attend encore une libération totale, une libération complète. Donc, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que le moment où ce que une personne croit en Jésus-Christ, qui croit en sa mort, sa résurrection, puis qui choisit de le mettre maître de sa vie, de suivre Jésus-Christ, à ce moment même-là, il est instantanément libéré de la punition du péché. Donc, à ce moment-là, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que quand Jésus-Christ était sur la croix, il a pris notre punition pour le péché. Donc, tous ceux qui se confient en lui sont libérés de cette punition-là. Puis, la punition retombe sur Jésus-Christ à notre place. Donc, on est instantanément libérés de la punition du péché. L'autre chose qu'on voit par contre, c'est que on est aussi, en tant que croyant, on est en train d'être libéré de la puissance du péché. Donc, même quand on devient chrétien, le péché continue à avoir une certaine puissance sur nous. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas si vous avez des enfants ou peu importe. Mais moi, je sais que des fois, j'essaie d'être patient avec mes enfants. Je n'ai pas été créé pour être patient. Donc, quand que je ne suis pas patient, ça veut dire que je suis en train de manquer la cible. Je suis en train de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour moi. Donc, quand je suis impatient, le péché a encore de la puissance sur moi. J'ai encore de la misère à ne pas être impatient. Mais au fur et à mesure que j'apprends à me coller à Jésus, que j'apprends à soumettre ma vie à Jésus, puis de dire non, c'est Jésus qui est mon maître, c'est pas mon impatience qui est mon maître, à ce moment-là, au fur et à mesure que j'obéis à Jésus, je suis en train d'être libéré de la puissance du péché. Le péché a de moins en moins de puissance sur ma vie. Puis, on aspire tous au jour où cette transformation-là va être complétée. On soupire après le jour où, en fait, on va être complètement libéré de la présence du péché. Donc, Jésus, Dieu promet qu'il y a un jour où, ce que ultimement, son peuple, ceux qui croient en lui, vont non seulement être délivrés de la punition du péché, non seulement de la puissance du péché, mais on va être aussi libéré de la présence du péché. Puis, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Quand il était à la croix, il a dit « tout est accompli ». Il dit « à la croix, Jésus a payé pour tout ça. Il a payé pour que la punition du péché ait plus d'effet sur nous. Il a payé pour que la puissance du péché ait plus d'effet sur nous. Puis il a payé pour que la présence du péché soit bannie. » Donc, il a tout payé à la croix. Mais dans la réalité de ce qu'on voit, puis de ce qu'on voit dans le passage de Romains, c'est que il y a des effets de la croix qui sont pas encore tous pleinement en mise en œuvre. Il y a des effets de la croix qu'on ne peut pas encore voir et goûter de façon tangible. La preuve, c'est que Satan, l'ennemi de Dieu, circule toujours. Le péché est encore très présent dans notre monde. On a juste à lire les journaux, voir à quel point il s'est détruit, voir l'environnement, à quel point il est détruit. On dit, OK, il y a certains des accomplissements. Quand Jésus a dit « tout est accompli », il a payé pour la rédemption de toutes ces choses-là. Mais évidemment, il y a des choses qui ne sont pas encore toutes mises en œuvre. Donc, en attendant... une des choses intéressantes qu'on voit dans la Bible, c'est que même Jésus attend aussi ce jour-là. Même Jésus soupire. Ça nous parle dans la Bible du fait que Jésus, quand il est venu, puis qu'il a ouvert sa vie à nous, pour que ceux qui puissent croire, on puisse devenir un avec lui. C'est comme s'il est venu nous fiancer. Puis, dans les mariages juifs, qu'est-ce qui arrivait? C'est que l'homme venait fiancer sa fiancée. Et puis, après ça, il repartait pour bâtir une maison pour elle. Puis, quand que tout était prêt et que tout était en ordre, à ce moment-là, il revenait la chercher. Elle venait avec lui. Puis, il faisait la fête, il faisait le mariage. Puis là, il était uni officiellement dans le mariage. Puis, c'est un peu la même image que Dieu nous donne que dans la Bible. Jésus, il est venu, il a donné sa vie pour nous. Il nous a fiancés. Puis on s'est promis à lui. Puis il nous dit dans Jean 14, il dit « Je suis allé vous préparer une place ». Donc il est allé nous préparer une place, puis il dit « Je vais revenir vous chercher ». Puis il dit « On va s'unir ». Puis Jésus lui-même, le créateur de l'univers, lui-même aspire, lui-même attend. Il a hâte au jour où enfin il va pouvoir goûter pleinement à son mariage. Donc, tout ça pour dire que malgré que oui, Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, puis malgré qu'il est venu pour nous débarrasser de la souffrance, puis nous débarrasser même de la pauvreté financière, etc., Jésus lui-même aspire, puis nous, en tant que chrétiens, on aspire encore à une libération qui est complète. Donc, à part que j'ai besoin d'une petite gorgée d'eau, ça sera pas long. Donc, en attendant ce jour glorieux-là. Okay? Parce que la plupart des chrétiens vont être d'accord qu'on attend ce jour-là. Puis on sait que c'est là que l'aboutissement complet de ce que Jésus a fait à la croix, ça va s'accomplir. Donc là, la question, c'est, OK, mais en attendant ce jour-là, est-ce que ça veut dire que la seule chose que je peux attendre de la vie, c'est la souffrance et la pauvreté? Parce que dans le fond, ce n'est pas encore arrivé. Montaigne il nous dit que, dans le passage, il nous dit que par l'Esprit, il nous donne parfois un avant-goût de ces promesses-là. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a quelqu'un qui est malade, peu importe, on prend le temps de prier pour cette personne-là, puis la personne est guérie. C'est un avant-goût du fait qu'un jour, toute maladie, toute souffrance va disparaître. Donc, on peut prier pour ces choses-là. Mais en même temps, c'est un avant-goût. On sait qu'on attend la libération complète pour cette personne-là qui souffre. Donc, on se pose la question, est-ce que je m'attends juste à la souffrance ou est-ce que puis à la pauvreté, puis dans le fond, Dieu n'en a pas grand-chose à faire de ma situation actuelle d'ici ce jour-là. Donc, la réalité, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui est présent, c'est un Dieu qui est proche de nous, c'est un Dieu qui se soucie de ses enfants, puis il veut des bonnes choses pour ses enfants. Donc, il y a un verset assez incroyable dans Romains 8 aussi qui nous dit la chose suivante. Il dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur de cette promesse-là, mais c'est assez intense. Imaginez le créateur de l'univers. Le créateur de l'univers, celui qui a toute puissance, toute richesse, etc. Lui, il dit que si tu l'aimes, si en tant qu'être humain, tu choisis d'aimer Dieu, il dit que peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, lui, avec toute la puissance puis l'autorité qu'il a, n'importe qu'est-ce qui peut t'arriver dans ta vie, lui va prendre cette chose-là, puis il va la transformer pour qu'elle vire à ton avantage. C'est incroyable. Parce que nous, on n'a pas ce pouvoir-là. Moi, je n'ai pas le pouvoir que toutes les choses qui se passent dans ma vie, ils vont virer pour mon bien. Moi, il peut se passer des choses très mauvaises dans ma vie, puis je n'ai pas le contrôle sur ces choses-là. Mais le créateur de l'univers, qui a le contrôle sur ces choses-là, dit, fais-toi-en pas, peu importe ce qui t'arrive. Il dit, moi, je vais le prendre, puis je vais le transformer en quelque chose de bien. Je vais produire quelque chose de bien à partir de ça. Ailleurs, l'apôtre Paul dit la chose suivante. Il dit, dans Philippiens, on va le lire, il dit « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Il dit, donc, des fois, on a des saisons de notre vie où ce que c'est la pauvreté. Des fois, on a des saisons de vie où ce que c'est la richesse. Donc, est-ce que Dieu veut que je sois riche? Est-ce qu'il veut que je sois pauvre? Ultimement, il veut que je sois riche. Mais d'ici la libération complète, il peut y avoir des temps de richesse, il peut y avoir des temps de pauvreté. Mais l'apôtre Paul, il dit, je suis capable de vivre à travers n'importe laquelle des deux. Parce qu'il dit, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il dit, j'aime Dieu et je sais que même si je suis en train de passer un temps de pauvreté ou un temps de richesse, je sais quand même que Dieu va le faire virer pour mon bien. Donc, à cause de ça, je peux tout. Je peux passer à travers la richesse et la pauvreté par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Dieu nous donne le vrai pouvoir ultime à travers Jésus-Christ de passer à travers n'importe quelle situation à cause de ses promesses puis à cause de ce qu'il a accompli à la croix. Donc, le plan de Dieu peut parfois être pour toi la richesse, puis parfois ça peut être d'être dans des temps de besoin. Mais la chose importante à se rappeler dans les deux cas, c'est que Dieu te donne ces choses-là, ces circonstances-là, parce qu'il t'aime, puis il sait comment en faire sortir du bien. Il sait ce qui est bien pour toi. Il sait quoi te donner en ce moment même pour ton bien. Parce que Dieu, pour Dieu, comme pour n'importe quel parent qui cherche à bien éduquer ses enfants, il n'y a pas juste l'argent qui compte. Donc moi, quand j'éduque mon enfant, j'ai 3 enfants, 9, 10, 11 ans. Puis quand je les éduque, Ma seule préoccupation, c'est pas j'espère qu'ils vont être riches. Non, en fait, c'est probablement même pas tant dans les priorités. J'espère qu'ils réussissent à s'en sortir dans la vie, oui. Mais en réalité, à cause que je les aime réellement, ce que j'espère, c'est des choses beaucoup plus importantes que la richesse financière. Ce que j'espère, c'est qu'ils apprennent à être des êtres humains qui aiment leurs prochains, des êtres humains qui ont un caractère ou qui sont persévérants, etc., qui apprennent le partage, qui sont généreux, etc. Donc, il y a des choses que je cherche à produire dans mes enfants qui ne sont pas juste la richesse financière. Puis Dieu, c'est un bon père qui, lui, a la même intention envers nous. Donc, il nous voit, puis il dit, j'aimerais les rendre riches, etc. Mais il y a des choses qui sont encore plus importantes que je veux produire en eux. Puis j'ai une démarche, j'ai un processus par lequel je vais les faire passer pour produire ce que je cherche à produire en eux. Donc, il y a des choses plus importantes que l'argent, comme le caractère, la persévérance, la foi, la patience, la reconnaissance. Donc, ce que nous, en tant qu'êtres humains, on doit rechercher, ce n'est pas premièrement l'argent. Ce n'est pas premièrement la richesse, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas ça notre but ultime. Mais ce qu'on doit chercher, ce sont les choses que Dieu cherche à produire en nous. C'est pour ça que Jésus dit en parlant d'argent, il dit dans l'évangile de Matthieu, il dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Je veux dire, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne se confient pas en Dieu, eux autres, ils n'ont pas le choix de s'inquiéter puis de se soucier de toutes ces choses-là. Mais il dit, vous, votre Père céleste, sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Donc, Dieu est un bon Père. Il sait ce dont vous avez besoin. Puis notre responsabilité, ce n'est pas de s'inquiéter, mais c'est d'écouter sa voix puis de le suivre. Donc, on revient à Jean 10, où il disait « Mes brebis entendent ma voix, puis elles me suivent. » Donc, quand on entend la voix du bon berger, on n'a pas besoin de s'inquiéter, on n'a pas besoin de poursuivre l'argent. Notre responsabilité, c'est d'écouter la voix du bon berger, puis de dire « Je vais suivre cette voix-là, parce que, un, je crois qu'il est un bon berger, et deux, je crois que Dieu est un bon père, qui sait ce que j'ai besoin, puis promet que toutes les choses vont virer pour mon bien si je m'attache à lui. » Donc, c'est ça de chercher le royaume de Dieu, sa justice. C'est de mettre sa vie en règle avec les enseignements de Jésus. C'est de dire, Jésus donne des enseignements, je suis ces enseignements-là. C'est de même que je me soumets à Jésus pour être dans son royaume. C'est ça aussi qui est juste. Il dit de poursuivre la justice de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est juste pour Dieu? C'est quand que les êtres humains, au lieu de vivre en mettant leur confiance en eux-mêmes puis en se faisant Dieu de leur propre vie pour choisir ce qu'eux veulent faire, c'est d'écouter la voix de Dieu, écouter ses préceptes, suivre ses préceptes, être reconnaissant envers Dieu parce qu'on croit que Dieu est un bon père puis que ses préceptes sont bons. Donc, c'est aussi ça, devenir un chrétien. Devenir un chrétien, c'est dire, je crois en Jésus-Christ, je crois qu'il est Dieu, je crois qu'il est mort, ressuscité, je crois qu'il a donné sa vie pour me pardonner nos fautes, nos péchés. Puis, maintenant, je veux commencer une vie nouvelle où ce que je veux vivre en suivant sa voix, en n'écoutant pas la voix de Marc Pilon, mais en écoutant la voix de Jésus, écouter ses préceptes à lui, parce que je sais qu'il est un bon berger. Donc, en fait, quand on a la foi, ce n'est pas difficile de suivre Jésus parce que ce que tu es en train de croire, c'est qu'il est réellement un bon berger puis qu'il est un meilleur berger que toi-même. Donc, pourquoi est-ce que tu voudrais t'obéir à toi qui es un berger médiocre quand que tu peux suivre un berger qui est meilleur puis qui a le contrôle de toutes choses entre ses mains? Donc, quand on a la foi, ce n'est pas difficile de suivre les préceptes de Dieu parce qu'on croit qu'il mène à la vie. Donc maintenant, si on revient à la question de l'argent, la première question, ce n'est pas est-ce que Dieu veut que je sois riche ou que je sois pauvre? Mais la question est-ce que je suis en train de suivre les préceptes de Dieu par rapport à l'argent, puis par rapport aux autres sphères de ma vie? Ensuite, c'est Dieu qui va veiller à donner à chacun exactement le montant d'argent qu'il veut donner à chacun, au moment prévu pour ce qu'il essaie de produire en vous. Donc, ça se peut qu'il est en train d'essayer de produire quelque chose dans ta vie, qu'il n'est pas en train d'essayer de produire dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, il n'a pas besoin de donner la même chose au même moment. Mais lui, il va chercher à te faire grandir dans chacune des sphères de ta vie à différentes étapes. Mais la chose qui est certaine, c'est qu'il y a une réelle et de réelles bénédictions tangibles rattachées au fait de suivre les préceptes de Dieu. Donc Dieu, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de l'argent, en réalité, Dieu considère que l'argent, c'est une petite chose. Il dit, c'est pas la grosse affaire de la vie. Il dit, c'est une petite chose, elle peut avoir une importance, mais c'est une petite chose. Donc il dit, si tu es capable d'être fidèle à suivre mes préceptes dans les petites choses, si tu es capable de suivre mes préceptes par rapport à l'argent, il dit, je vais pouvoir te confier des choses encore plus importantes. Premièrement, je vais pouvoir te confier encore plus d'argent si tu es fidèle avec le petit peu que je donne. Puis, je vais pouvoir te donner des choses encore plus importantes que l'argent. Je vais pouvoir te confier des choses plus importantes. Donc, exemple que moi, je donne 5 piastres à mon enfant, puis il s'en va le flouber tout de suite au complet au dépanneur. Est-ce que j'ai le goût d'y donner 20 piastres? Non. Parce qu'il n'est pas encore capable de gérer cet argent-là. Il va juste le flouber le 20$ aussi. Donc, c'est pas une question de juste est-ce que papa est généreux ou pas, c'est est-ce que papa est intelligent ou pas. Puis c'est la question avec Dieu. Est-ce qu'il est intelligent pour savoir combien il devrait nous donner à quel moment dans notre vie? Donc, si tu n'es pas fidèle à suivre les principes de Dieu par rapport à l'argent, ben sois pas surpris s'il ne t'en donne pas plus. Non plus. C'est ce que Jésus dit dans Luc 16. Il dit, celui qui est fidèle, oh, peut-être qu'il n'est pas là, je vais juste vous le lire, ça ne dérange pas, il n'est pas à l'écran. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, les richesses matérielles, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc ça nous mène en fait à un premier principe de Dieu face à l'argent. Parce que là, je vous parle beaucoup d'argent, tout ça, puis je dis suivez les préceptes de Dieu par rapport à l'argent, mais ça n'a pas grand poids si on ne donne pas ces principes-là. Puis en fait, avec le reste du temps qui nous reste ce matin, j'ai 5 principes que je veux qu'on regarde par rapport à l'argent. Puis pour être honnête, je ne sais pas s'il y en a que c'est la première fois que vous êtes ici, c'est quand même relativement rare qu'on parle d'argent, etc., puis de ces principes-là. On passe même pas de quête, à ce que je sache, là. Le but, c'est pas d'avoir votre argent, OK? Mais le but, c'est que c'est important pour les chrétiens, ceux qui suivent Jésus, de connaître c'est quoi les principes de Dieu par rapport à l'argent. Dans Jean 10, en fait, le sujet qui est traité, ce n'est pas spécifiquement l'argent non plus. Mais la raison qu'on va se pencher sur la question de l'argent, c'est un, pour vous donner ces principes-là après en avoir parlé. Puis deux, c'est parce que des fois, on peut rendre ça très mystique, des passages comme « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Okay? On peut rendre ça comme « Ah oui, mais comment est-ce qu'on fait pour entendre la voix du bon berger? » Ça vous est déjà arrivé? Moi, en tout cas, en tant que pasteur, il y a beaucoup de monde qui dit « Ouais, mais Marc, je veux l'entendre, la voix du berger, etc. Puis je veux le suivre, puis tout ça. » Puis des fois, c'est vrai qu'il va nous parler de façon un peu plus mystique, si on veut. Mais la majorité du temps, ça va se passer dans le noir, ce qui est écrit en noir sur blanc dans la Bible. Okay? Donc, si tu n'es pas fidèle à suivre les choses qui sont écrites noir sur blanc dans la Bible, encore une fois, pourquoi est-ce que Dieu te confierait des révélations mystiques? Okay? Donc, il faut apprendre, si on veut écouter la voix du berger puis le suivre, il faut pas juste partir dans un trip mystique. Il faut se dire, OK, bon, ben, c'est qu'est-ce qu'il dit, le berger? Je vais voir ce qui est écrit et je vais le suivre. Donc, voici les principes par rapport à l'argent. Donc, un, tout appartient à Dieu. C'est un principe de base. Ça nous dit dans Psaume 50, ça nous dit, car tous les animaux des forêts sont à moi, c'est Dieu qui parle, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Donc, la réalité, c'est que Dieu, tout y appartient. C'est de lui qui a créé. Puis il dit, si j'ai faim, je n'ai pas besoin d'aller te demander la permission pour avoir quelque chose. Il dit, ça m'appartient. Puis c'est un principe qui est ultra important dans la dynamique du chrétien face à l'argent. Puis ça nous mène déjà au deuxième principe qui est le suivant, les dîmes et les prémices. Okay, donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Dans l'Ancien Testament, le peuple apportait... on va juste attendre avant de mettre le verset sur l'écran. Dans l'Ancien Testament, le peuple apportait en fait à la maison de Dieu les premiers fruits de leur récolte. Donc, quand il y avait la récolte, ils apportaient les premiers fruits de leur récolte à Dieu. Ça nous dit dans biblenote.org, je voulais juste lire une petite citation, ça dit « L'offrande des prémices consistait en un acte d'amour. » C'est un acte d'amour, d'obéissance et de reconnaissance. L'Israélite manifestait son amour pour Dieu dans l'obéissance en lui donnant une partie, la première et la meilleure de ce qu'il avait reçu. Il reconnaissait d'autre part que Dieu était le Créateur, celui auquel appartiennent toutes choses, le dispensateur de tout bien. Ailleurs, dans Proverbe 3, ça nous dit la chose suivante. Ça nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Donc, c'est un principe qui est très vrai. Donc, en même temps que Dieu n'a pas dit, c'est sûr que la minute que tu suis Jésus, je vais te rendre riche, etc. On voit qu'en tant que père, il veut te donner des bons principes, puis il veut aussi te rendre riche. Mais il veut que tu suives les principes, il veut que tu entendes la voix du berger, puis que tu le suives. Donc, il dit, quand tu reçois de l'argent, puis là, il parle à nous, il dit, quand tu reçois de l'argent, de n'importe quelle source, que ce soit ton salaire, que ce soit l'aide financière, que ce soit ton allocation familiale, que ce soit même un cadeau de fête que tu reçois. Première chose à faire avant même de penser de payer tes factures, avant même de penser à quoi que ce soit, choisis un montant à donner à Dieu. C'est une façon simple d'honorer Dieu, de reconnaître que tout vient de lui, même ton cadeau de fête vient de lui. Ta job, elle vient de lui. Ta santé, elle vient de lui. Tout vient de lui. Puis c'est une façon de reconnaître l'argent que je reçois. Je sais que c'est toi, ultimement, qui me le donne, Dieu. Donc, à cause de ça, je prends un temps pour juste mettre de côté le premier de tout ce que je reçois. Je te le remets à toi. C'est un principe qui est bien réel aussi, que Dieu prend plaisir à bénir ceux qui l'honorent de leur bien. Dieu, il prend plaisir à bénir ceux qui donnent de leur bien. Donc là, immédiatement, notre cerveau se met à travailler un peu, puis on se met à réfléchir à notre compte de banque, à nos payes, etc. Puis là, notre question, c'est « OK, mais combien? » On dit « OK, je suis prêt à donner une partie, la première partie à Dieu, mais combien? » Donc, le principe le plus récurrent dans la Bible et qui est un bon point de départ pour honorer Dieu de nos biens, c'est le principe de la dîme. La dîme, c'est en fait de donner 10% à Dieu pour sa maison puis pour sa mission. Puis encore une fois, c'est un principe qui est très réel, que Dieu bénit ceux qui l'honorent en apportant le premier 10% de tout ce qu'ils reçoivent. On le voit dans Malachie, qui est un livre de l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu avait négligé d'écouter la voix de Dieu au sujet des dîmes. Ça nous dit, c'est l'Éternel qui parle, puis il dit, « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir? » Puis on pourrait se poser la même question. Ça se peut que ce matin, Dieu est en train de... Moi, je ne connais pas ce que Église 21 donne. Je ne sais pas ce que les gens ici donnent. Mais ça se peut que Dieu est en train de dire, « Hey, Église 21, revenez à moi. » Puis on est comme, « Hein? Revenez à moi? » Il me semble on est correct, on est des bons chrétiens, etc. Puis là, il dit, « En quoi devons-nous revenir? » Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? » Fait que là, Dieu il serait comme, « Oui, mais vous me trompez. » Ah, qu'est-ce que ça veut dire? On te trompe. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes. Imaginez, là, il est en train de dire, « Check, amenez vos dîmes, vos offrandes. » Il dit, « Des choses que vous n'êtes pas capables de faire, vous autres, vous inquiétez de si l'insecte va détruire vos vignes, etc., puis si votre vigne va être stérile, vous autres, vous inquiétez de ça? Vous n'avez pas le contrôle sur ça? » Il dit, « Apportez vos dîmes. Checkez, moi, je suis capable de faire des choses pour vous que vous n'êtes pas capable de faire. » Il est capable, Dieu est le maître de l'univers. Il est capable de faire virer les choses en votre faveur. Mais il dit, vous me volez, vous faites pas votre part, vous respectez pas l'engagement qu'on a en tant que peuple envers Dieu. Donc il dit, tu peux pas tromper Dieu. Il dit, je le vois très bien si t'es cheap avec moi. Donc, il dit, tu peux pas me tromper. Donc, une chose intéressante à prendre en compte dans ce qu'on parle aujourd'hui, c'est que oui, dans notre vie chrétienne, peu importe si tu suis bien les principes ou pas, ça se peut qu'il y ait des temps de richesse, ça se peut qu'il y ait des temps de besoin ou de pauvreté. Mais ça se peut aussi que Dieu fait par exprès pour te laisser dans un temps de pauvreté puis de malédiction. À cause que tu es cheap envers Dieu. Donc, au lieu de donner à Dieu ce qui lui revient, tu décides de garder ça pour toi, puis il dit, OK, ben arrange-toi d'abord avec tes affaires. Il dit, je n'ai pas besoin de donner ma faveur, d'autant plus pour tes biens matériels, parce que tu n'es pas en train de vivre avec tes biens matériels d'une façon qui m'honore, puis de façon où tu es en train de me mettre moi en premier. Donc, il y en a peut-être que même votre raison de ne pas donner, c'est à cause que vous êtes pauvre. Donc, vous dites, ah ben ouais, mais moi, je suis aux études, ça coûte cher, puis tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent, donc c'est pour ça que je donne pas. Donc, je vais donner du temps à place. Vous avez déjà entendu ça? Je vais donner du temps, puis ça va être ma manière de donner à l'Église. En fait, ça se peut que la raison que tu sois pauvre, ça soit à cause que tu donnes pas. Donc, tu te places toujours dans une meilleure position financière si tu es en train d'obéir au principe de Dieu par rapport aux finances. Parce que c'est lui qui voit toutes choses, puis qui connaît tes besoins, puis qui va prendre soin de toi. C'est que Dieu veut nous apprendre à ce que c'est lui notre pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit toutes choses. Donc, quand on reçoit de l'argent, même si on en a besoin pour payer nos études, on se dit, OK, non, c'est pas cet argent-là qui paye ultimement pour mes études, même si c'est même pas suffisamment pour payer pour mes études. Donc, il va falloir que ça vienne d'un plus gros compte de banque, puis Dieu a un plus gros compte de banque. Donc, je vais me confier en lui et non en moi-même. Donc, Dieu veut nous montrer à placer notre confiance en lui au lieu de dans notre compte de banque, puis on va toujours en sortir gagnant quand on passe Dieu en premier. Quand on apprend à lui faire confiance, ça va nous apprendre justement à lui faire confiance, on va être moins inquiet, moins soucieux, moins anxieux par rapport à nos dépenses. Puis les chances sont que littéralement, financièrement, ça va aller mieux que si tu fais juste garder tout pour toi-même. Ça devient aussi libérant de vivre de cette manière-là. Et même excitant d'une certaine façon. Parce que si tu gardes tout ton argent pour toi, ton seul espoir que ça aille bien financièrement, c'est ce que toi, tu es capable de gagner comme argent. Mais si tu fais confiance à Dieu puis tu donnes tes prémices et tes dîmes à Dieu, à ce moment-là, ta confiance n'est plus virée sur toi et ton compte de banque, mais elle commence à être virée sur Dieu. Puis Dieu sait de quoi que tu as besoin pour vivre. Puis il est beaucoup plus riche puis il est beaucoup plus généreux que toi. Donc, il va te surprendre. Les chansons qui vont te bénir au-delà de ce que tu lui as donné. Donc, ça revient un peu à la parole de Jésus. Si tu es fidèle avec peu de choses, Dieu pourra t'en confier plus. Mais si tu es infidèle avec le petit peu, justement, tu dis, ouais, mais je ne suis pas assez riche pour donner. Ben, si tu n'es pas fidèle avec le petit peu, ben, les chances sont que tu ne vas pas t'en faire confier plus. Donc, Dieu est beaucoup plus riche, beaucoup plus généreux que nous. Puis, on peut grandir en apprenant à suivre la voie du bon berger, à suivre ses principes, puis à faire confiance à Dieu pour les richesses. Troisième principe, ton cœur s'attachera à ce vers quoi va ton argent. En fait, si ton argent va vers ton cœur va s'attacher à ton char. Si ton argent va vers ta maison, ton cœur va s'attacher à ta maison. Si ton argent va dans ton compte de banque, ton cœur va s'attacher à ton compte de banque. Y a-t-il de quoi de moins excitant qu'un compte de banque? Un compte de banque, c'est super plate. Il n'y a rien, c'est plate, okay? C'est rien. Mais pourtant, si ton argent, c'est là qu'elle va, ton cœur va s'attacher à ça. Donc, Dieu, il a des meilleurs plans pour toi. Puis il dit, en fait, c'est une des meilleures manières de s'attacher à Dieu, d'avoir un cœur attaché à Dieu, c'est de donner à Dieu. Si ton argent va vers les choses de Dieu, ton cœur va s'attacher aux choses de Dieu. On va tout de suite passer au principe numéro 4. Donc, peut-être qu'il va falloir skipper une couple de slides. Un long principe. Contente-toi de ce que tu as. C'est un long principe. Contente-toi de ce que tu as. Ne sois pas envieux. Ne poursuis pas la richesse. Ne dépense pas plus que ce que tu as. Ne t'endette pas et travaille fort. 1 Timothée. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. On continue. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Dans Proverbe 22, ça nous dit « Le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » L'endettement, c'est un type d'esclavage. Donc, comme un bon père, Dieu veut nous empêcher d'être esclaves de l'argent. Quand on dépense plus que ce que l'on a, on est esclave de l'argent. Dans Proverbe 21, ça nous dit « On trouve de précieux trésors et de l'huile dans le domaine du sage. » L'homme stupide, lui, les engloutit. Est-ce que tu as déjà connu quelqu'un que, aussitôt qu'il y a de l'argent, c'est comme s'il engloutit tout cet argent-là? Est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un que, aussitôt qu'il y a de l'argent, parti? Oui? Non? Oui? Est-ce que cette personne-là, c'était toi? Moi, des fois, je me sens littéralement de même. Des fois, j'ai l'impression, voyons, aussitôt que j'ai de l'argent, j'ai déjà une idée de comment je vais le dépenser et tout ça. Puis, il est déjà parti avant que j'aie pu réfléchir. Donc, c'est un bon temps, si c'est toi, c'est un bon temps d'arrêter puis d'apprendre le contentement. De dépenser plus que ce que tu as puis de t'endetter, c'est jamais une bonne idée. Si tu t'endettes pour des choses qui n'ont pas de valeur, si la valeur de cette chose-là est en train de diminuer au fur et à mesure que toi, tu es en train de te coûter plus par les intérêts, etc., c'est jamais une bonne stratégie. Donc, si tu es déjà endetté, tu vas d'ailleurs devoir redoubler d'efforts pour te contenter parce que tu vas devoir apprendre à dépenser significativement moins que ce que tu reçois. Donc, c'est ça. Ça se peut qu'on est dans la pauvreté à cause de... C'est juste une saison de notre vie, mais ça se peut aussi que c'est à cause qu'on est un mauvais gestionnaire de notre argent. Proverbe 14 nous dit « Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. » Puis Proverbe 6 « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. » Donc, ça se peut que ce soit ta paresse qui te rend pauvre aussi. Donc, Dieu a des bons plans pour ses enfants. Puis, oui, il y a des saisons de pauvreté puis de richesse, mais en même temps, ça se peut que tu es dans une saison de pauvreté qui n'est pas voulue de Dieu, mais qui est vraiment due à ta gestion, à ta paresse, au fait que tu ne donnes pas, etc. Donc, je vais inviter l'équipe de musique à venir s'installer pour le cinquième principe, qui est aussi long un peu, qui dit « Celui qui sème peu, amasse peu, se donne avec joie à ceux dans le besoin. La générosité, c'est une démonstration de l'Évangile de façon tangible, puis ça donne la gloire à Dieu. » Donc, dans 2 Corinthiens 9, ça nous dit « J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Donc, si l'apôtre Paul parle à l'Église, justement à une Église qui est en train de récolter une offrande, un don qu'ils vont faire à une autre Église qui sont dans le besoin. Donc, même au-delà de ce qu'on est appelé à donner à la maison de Dieu, un autre principe, c'est d'être généreux avec ce qu'on a, puis d'aider les pauvres, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Puis il dit au verset 6, il dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Puis vous savez, dans Jean 10, quand il parle de donner la vie en abondance, il ne parle pas si souvent de ça, de l'argent, dans le contexte de Jean 10. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué à travers les passages à quel point le mot « abondance » revient souvent. Puis, c'est vraiment ça, c'est que il dit, si tu sèmes peu, si tu es cheap, si tu n'es pas généreux, il dit, tu ne vas pas moissonner beaucoup, mais il dit, si tu es généreux, si tu donnes beaucoup, il dit, à ce moment-là, moi, je vais permettre que la moisson pour toi soit abondante. Donc, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, Dieu, il dit, dans le monde idéal, il dit, moi, je vous donnerai suffisamment pour tous vos besoins et en plus en abondance pour que vous puissiez être généreux avec tous. Il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit la semence, ça c'est Dieu qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue. Donc, pas juste au niveau financier, vous allez être enrichis, mais à tout point de vue, pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par votre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Est-ce que vous avez déjà été celui qui a bénéficié de la générosité de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez déjà été dans un temps de besoin où est-ce que vous avez besoin que quelqu'un soit généreux envers vous puis vous a donné ce que vous aviez besoin? La chose instantanée qui arrive, c'est que notre cœur se tourne vers Dieu. On remercie Dieu parce qu'on sait que c'est pas de nous, c'était pas quelque chose qu'on s'attendait. On sait que Dieu a créé quelque chose de miraculeux pour qu'on puisse recevoir cet argent-là. Donc, la générosité que nous, on a envers les autres, ça pousse les gens à être reconnaissants envers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints. Il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ. Des fois, on dit, on veut être une église qui vit l'Évangile, qui amène l'Évangile partout dans Montréal. Mais il dit, quand que vous donnez généreusement, c'est une expression de l'Évangile. L'Évangile devient une bonne nouvelle pour les gens autour de vous et de votre générosité dans la solidarité que vous avez avec eux tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce abondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Donc, principe bonus que je vous laisse avec ce matin, c'est Dieu le plus généreux. C'est Dieu qui nous a donné le plus. C'est lui qui nous a donné son Fils Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui s'est fait lui-même pauvre pour nous rendre riches, pour nous libérer du pouvoir que l'argent a sur nous, pour qu'on puisse réellement vivre dans l'abondance à tout point de vue, en écoutant la voix du bon berger qui nous donne ses principes, qui nous donne ses préceptes, qui nous donne sa vie pour ses brebis. Donc, suivons sa voix, car son fardeau, en réalité, est doux et léger. Amen.